appelé idéologique. Et au moment où l'expert passe de la description clinique à l'option qu'il prend pour parler de responsabilité, il entre dans son idéologie et il dit « voilà mon idéologie », c'est qu'à ce moment-là, il est responsable ou il ne l'est pas. Et c'est plus clair pour les juges, pour les thérapeutes et pour les patients.
Je crois savoir que M. Lamothe voulait répondre à M. Gasser ce matin concernant la responsabilité limitée. Est-ce que maintenant vous voulez intervenir sur ce thème de la responsabilité limitée?
Je ne veux pas emboliser la conversation, hein. Il y a peut-être d'autres...
Non, mais j'insiste, hein, donc. Mais je crois qu'il y a une question, effectivement. Oui.
Ce n'est pas une question, c'est un encouragement qui vient de ce qui était... qui était exprimé dans la chanson. Malgré ton état de fragile, psychique fragile, tu es toujours intact. Donc, à mon avis, le fait que nous croyons tous, et moi je considère ça comme une vérité scientifique, idéologie, angélisme, etc., mais pour moi c'est de la science. De savoir qu'il y a l'être intact derrière tout ça, et ça nous encourage la socialisation.
Oui, quand vous posez la question resocialisation ou neutralisation, ça donne un petit peu l'impression qu'il faudrait décider sur le champ. Est-ce que je me trompe? Au départ.
C'est l'impression que j'en ai.
Je pense qu'il faut apporter une espèce de nuance, soit que le sujet, comme vous l'appelez, le fou dangereux, bon, il y aura une expertise sur la responsabilité criminelle. Il y a des fous dangereux qui peuvent agir aussi en étant responsables criminellement. Donc, ils prendront le chemin du pénitencier. Et après, on traitera la partie de la folie, pour les améliorer le plus possible. Et dans ce sens-là, je pense que c'est dangereux d'essayer de répondre à la question dans l'immédiat. Parce que nos patients, ils évoluent. Des fois bien, des fois moins bien. Et la question de la dangerosité doit toujours être réévaluée avec toute une analyse des facteurs de risque qui eux-mêmes vont changer aussi au fil des années. Par exemple, quand il y a triple problématique ou quadruple ou quintuple, si, par exemple, la toxicomanie est un problème majeur qui met le sujet à risque et qu'on arrive à contrôler la toxicomanie ou fournir un cadre, la dangerosité reliée à la toxicomanie s'enlève comme facteur de risque et, à ce moment-là, le fou dangereux est moins dangereux. Donc, je pense qu'il faut essayer de le voir dans une perspective longitudinale, en réévaluation constante. Si c'est un cas de pénitencier, on lui donne les soins psychiatriques appropriés. Si au niveau de sa personnalité, il n'est pas mûr au changement, il ne veut rien savoir du changement, il accepte de peine et de misère le traitement psychiatrique, et ça sera pour plus tard. Donc, à ce moment-là, il sera neutralisé. Et parce qu'il ne veut pas avancer. S'il évolue favorablement, à ce moment-là, on ira vers la resocialisation.
Merci beaucoup. Alors, effectivement... j'entendais bien ça aussi, c'est-à-dire neutralisation en tant que décision de départ ou resocialisation en tant que décision de départ. Votre décision de départ, c'est de la resocialisation dans la mesure du possible. Et vous dites vous-même, ce sera pour plus tard. Si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain, peut-être. Mais toujours dans un but à long terme qui sera d'améliorer si possible. D'accord. Donc on est dans une idéologie de réhabilitation. C'est en fait comme ça que je la verrai.
Donc, je pense que les termes dans lesquels au fond, vous posez cette opposition est un faux problème. Parce qu'au fond, ça ne se pose jamais dans ces termes-là exactement. Et je crois que les deux sont nécessaires. Et c'est un moment différent, simplement le processus. Et c'est impossible de décider à la base qu'on est dans un processus de resocialisation ou qu'on est dans un processus de neutralisation.
Tu veux
Entre neutralisation et resocialisation, je crois qu'en fait le problème est un petit peu artificiel parce que la neutralisation se heurte rapidement au problème des droits de l'homme. Et je ne suis pas juriste, mais je pense que tout le monde sera d'accord qu'il faut qu'il y ait une proportionnalité entre les actes et, le, et par exemple la durée de l'incarcération. Donc, neutralisation, oui, sans doute, mais bon, jusqu'à quand? Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas dire d'emblée telle personne est en quelque sorte pas resocialisable et telle autre l'est. Mais le fait est quand même que la resocialisation ou les essais de resocialisation doivent commencer suffisamment tôt pour qu'on ne se retrouve pas, je crois, comme on dit en France, à fond de peine avec quelqu'un pour qui rien n'a été tenté parce que d'emblée, pour des raisons d'évaluation approximative ou d'idéologie, on a dit cette personne n'est pas resocialisable parce qu'à ce moment-là, on se retrouve dans une situation paradoxalement catastrophique en ayant voulu être très sécuritaire, on se retrouve totalement asécuritaire.
Alors, je suis très, très content d'entendre que ce que resocialisation, neutralisation, c'est un faux problème. Je rappellerai quand même que aux États-Unis, il existe des théories qui nous disent life is life, et on les, c'est des peines incompressibles à vie, c'est des cumuls de peines qui vont jusqu'à 300, 400 années de prison. Je veux dire, c'est de la neutralisation idéologique au départ. Donc il n'y a là pas de resocialisation envisageable.
Non seulement je crois qu'il n'y a pas de resocialisation envisageable quand on se place sous l'angle de l'élimination et de la neutralisation, mais je pense que ça traduit aussi une volonté d'être systématiquement en aval du comportement et de demander aux psychiatres d'être dans ce qu'ils savent faire le moins bien, et non pas dans ce où ils pourraient peut-être dire quelque chose. Quelle que soit la forme de théorisation que nous élaborons à partir de l'histoire clinique de nos patients, que nous soyons plus neurobiologistes, comportementalistes, cognitivistes, psychanalystes, nous avons quand même un certain nombre d'explications qui, elles, pour le coup, peuvent déboucher sur des implications au niveau de la prévention primaire. Et jamais, au grand jamais, les politiques, les administratifs et les médias, le grand public, n'acceptent de nous demander quelque chose en termes de prévention primaire. Parce que, bon, d'abord, dans une démocratie, la prévention primaire, c'est pas très payant parce qu'on travaille pour les voisins, pour les suivants, enfin, qui recueilleront les fruits plus tard. C'est comme planter un arbre, il faut attendre que ça vienne. Mais c'est certain que le terme l'excitabilité de nos patients est assez grande lorsqu'on s'adresse aux personality disorders, et on s'aperçoit que les sociétés les plus excitantes et celles qui protègent le moins les enfants sont celles qui ont le plus de violence, bien entendu. Et il est clair qu'on peut repérer de façon absolument évidente les causes du maintien de l'excitation anormale chez les enfants et de la non-protection, du maintien donc dans une immaturité, dans une vie dans l'instant, dans une vie qui va passer par le passage à l'acte, dans une vie qui sera sous l'angle de l'appropriation de l'autre, parce que cette société elle-même se comporte d'une façon abusive vis-à-vis des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire que de s'étonner de voir des gosses flinguer tout dans une école et en même temps de laisser diffuser la contre-éducation populaire 24 heures sur 24 par la télévision en montrant le meurtre comme une situation normale pour régler les problèmes, en montrant l'esthétisme vénéneux de la mort ou du crime jusqu'à une exaltation sanctionnée par les Oscars, la publicité, etc., en montrant le climat incestuel d'abolition entre les générations. Ça peut vous paraître très marrant quand vous voyez à la couverture de Paris Match Jacques Martin et son amour des enfants qui vous dit il voulait m'enterrer, je fais un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un enfant pour pas mourir? Message abominablement pervers. On peut pas être dans une société qui est régulièrement perverse et s'étonner qu'elle soit régulièrement violente. Donc là, je crois que nous avons à prendre la parole aussi pour dire, ne nous demandez pas seulement de compter les criminels et puis d'avoir une action préventive sur leurs actes, sur l'acte de ce criminel-là. Demandez-nous aussi qu'est-ce que nous pensons, aussi bien en tant que sociologue qu'en tant que psycho, etc., de la violence sociale en général et de la façon dont on peut abaisser le niveau global de violence, espérer davantage de maturité sociale et davantage de respect les uns des autres.
Il y a du travail pour les criminologues.
Alors, effectivement, par rapport à ce que vous dites, je trouve extrêmement pertinent. Et actuellement, on commence à voir aux États-Unis des programmes d'éducation qui sont destinés à des enfants de milieux défavorisés, mais pas d'éducation uniquement au niveau de connaissances scolaires, mais de connaissances sociales, de connaissances émotionnelles, de compréhension d'eux-mêmes, de compréhension des autres, de compréhension des interactions. Et je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience actuelle de l'importance de ce travail, non pas seulement au niveau de l'éducation parentale, mais de l'éducation scolaire. Il est clair que c'est des démarches qui sont encore expérimentales, et je pense qu'on devrait attendre encore un certain nombre d'années avant qu'on les trouve dans nos programmes scolaires ici en Europe. Mais j'espère que c'est quelque chose qui vient de plus en plus, parce que je pense que ce serait une première démarche pour permettre de mieux gérer les problèmes de violence que peuvent survenir plus tard.
Une autre réaction ? Une question ? Oui, au fond de la salle. À droite. Tout au fond à droite.
Merci. Ouais, c'est plutôt une réflexion sur un autre sujet. Celui qui a été évoqué tout à l'heure par les criminologues qui sont à la table sur la question de l'évaluation. Moi, je me souviens, il y a fort longtemps, au moment de mes études de droit, notre professeur de droit pénal nous avait parlé d'un auteur criminologue du nom de Lombroso, si je me souviens bien. Et puis j'avais eu la curiosité d'aller regarder un peu les bouquins de ce monsieur. Et puis j'avais vu alors des critères d'évaluation de la criminalité des personnes qui étaient... Par exemple, les sourcils qui se rejoignaient, il n'y avait pas de séparation entre les sourcils. Les sourcils étaient joints sur toute la largeur du visage. Il y avait aussi d'autres critères d'évaluation que la pudeur m'empêche de vous, dont la pudeur m'empêche de vous parler ici. Alors ma question aux criminologues qui sont à la table, là, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes d'évaluation pour aujourd'hui ?
Vous voyez, on n'a pas parlé tout à fait de la même chose. Je crois que le mot évaluation tel que l'avait employé Lombroso signifie aujourd'hui plutôt description. C'est pratiquement une mesuration, description. Alors que quand on parle de manière tout à fait générale, aussi en dehors de la criminologie, d'évaluation, il s'agit de savoir si une quelconque intervention, c'est-à-dire un programme, nouveau programme scolaire, français moderne, hein, tout ce que vous voulez, si ce programme atteint les buts qui ont été proclamés quand on l'a lancé. C'est ça la question. Hein. Est-ce que les gosses qui apprennent le français selon telle ou telle nouvelle méthode, vont-ils mieux réussir à maîtriser la langue que ceux qui ont suivi la langue selon une autre méthode? Voyez, ça c'est l'évaluation. Et ma question est de savoir si on dit alors, on veut améliorer les personnes judiciarisées, punies, incarcérées, on veut leur aider à évoluer autrement. Alors, si tel est le but, la question est de savoir est-ce que ce but peut être atteint. Et c'est là-dessus que portait mon intervention. Ça n'a rien à voir avec la mesuration des sourcils ou des yeux et des couleurs des cheveux, tout ça. Mais puisqu'on en revient à ce sujet-là, je me permets peut-être juste... de faire encore deux observations. Premièrement, peut-être juste pour
reprendre la perche que m'a lancée le docteur Niveau, je crois que quand vous avez à randomiser entre deux groupes d'une taille raisonnablement grande, normalement, les caractéristiques démographiques ou sociales que vous retrouvez dans les deux groupes devraient s'équilibrer. Si vous avez un programme qui postule de s'intéresser à des jeunes et des vieux et des, je sais pas, personnes de telle ou telle caractéristique, alors à ce moment-là, vous devez jouer le jeu. Et cela veut dire qu'on ne peut pas prendre des jeunes ou que des vieux ou que n'importe quel caractéristique. Vous devez prendre du tout, enfin toutes les catégories à qui vous entendez, pour qui vous entendez donc mener votre programme. Et puis à ce moment-là, votre groupe de contrôle sera aléatoirement composé de personnes d'à peu près les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, et c'est un point que nous avons constaté et avec l'évaluation du programme Héroïne à Genève, où on a mené effectivement une randomisation, un joli petit expériment, une très belle petite expérimentation contrôlée. De même que pour le tige, tant qu'entendre vous, vous pouvez rencontrer un autre problème qui est beaucoup plus pénible que le problème d'avoir un peu trop de vieux ou de jeunes ou de trop d'étrangers ou je ne sais pas quoi dans tel ou tel groupe. C'est le problème que, par le jeu du hasard, il peut se produire que votre groupe témoin soit légèrement plus délinquant que le groupe traité, ou l'inverse. Alors, par exemple, dans l'expérimentation genevoise avec l'héroïne, le groupe traité à l'héroïne était légèrement plus délinquant que le groupe contrôle. Et dans le groupe, dans le cas de l'évaluation du tige vaudois, c'était l'inverse. C'était le groupe prison qui était légèrement plus délinquant. Enfin, bref, ce sont des petites déviations que vous ne pouvez pas du tout maîtriser quand vous tirez le sort. Pratiquement, ça peut se résoudre par des traitements statistiques un peu différents que je crois que ça irait peut-être un peu trop loin de discuter ici. Mais c'est maîtrisable. Par contre, quelque chose que je recommande lorsque on a affaire à un petit programme qui ne s'adresse pas à 200 personnes, mais à une trentaine de personnes, c'est de faire le procédé des matched pairs, c'est-à-dire on choisit deux sosies pour chaque place libre. On ne choisit pas n'importe deux candidats, mais deux candidats sosies. Même âge, même condition sociale, même problématique. Et puis on tire au sort pour retenir l'un des deux sosies dans le groupe traité et l'autre sosie dans le groupe contrôle. Comme ça, vous réduisez, statistiquement exprimé, la variance. Puis, je ne veux pas être trop long, mais j'aimerais juste terminer avec une remarque légèrement méchante, puisque ça attire toujours l'attention du public. N'est-ce pas? Il y a parfois des problèmes en droit, et je viens d'une faculté de droit, très sage, rassurez-vous. Mais il y a des collègues juristes qui font énormément d'avis de droit. Récemment, j'ai croisé sur la rue, dans les ruelles de Berne, le procureur bernois qui représente l'accusation dans l'affaire Ray. Je dis, comment ça va? Ah ben lundi prochain, tu sais, ça démarre. Mais tu sais, le pire, c'est qu'il y a, je ne sais plus combien il a dit, entre 5 et 10 expertise de tes collègues dans ce dossier. Hein? Alors ça me suscite beaucoup d'interrogations. On peut obtenir à peu près n'importe quel avis de droit pourvu que l'on puisse payer. Et je crois que on aurait, du côté des universités, beaucoup à réfléchir sur notre éthique dans ce domaine-là. Maintenant, nous ne parlons pas de procès pénaux,
Mais dans le cadre des évaluations, il y a aussi des problèmes éthiques, peut-être pas aussi aigus, puisqu'il y a beaucoup moins d'argent qui est en cause. Mais lorsque nous acceptons de mener des recherches évaluatives dont le résultat ne peut être négatif, qui ne peut donner que des résultats brillants pour le programme en question, ben dans ce cadre-là, nous ne nous démarquons pas tellement de collègues juristes qui donnent leurs avis de droit, au mieux offrant. C'est un peu le même problème. Et je crois que là, nous avons, nous aussi, une obligation d'attirer l'attention des milieux, de la pratique, sur les risques, je dirais, de l'abus de la science. Bien entendu, si l'on veut, je peux bien comprendre que l'on ne veuille pas avoir des résultats très développés. Bon, c'est ce que j'ai dit. Il y a un tas de situations de la vie quotidienne jusqu'à la partie pénitentiaire où on se dit, bon, moi je veux savoir, je veux lancer ce programme. Pour x, y raison, je suis sûr de moi, je vais le lancer, je ne veux pas les doutes d'une évaluation scientifique. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vois. Je trouve que c'est tout à fait honnête. Par contre, ce qui est malhonnête, c'est de dire, bon, le Parlement n'acceptera pas. Il faut lancer ça différemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lance un essai. Et puis, puisque c'est un essai, eh bien, il faut une évaluation scientifique. Mais, on fait tout en même temps pour empêcher que cette évaluation scientifique puisse donner des résultats qui pourraient être déconcertants. Pas? Alors, voilà. Ce sont tout autant d'interrogations d'ordre éthique qui, je trouve, devraient un petit peu nous aider peut-être à mener le débat plus loin.
Tout le problème de la recherche à Libye. Docteur Gravier.
Je voudrais juste revenir sur le thème du débat que vous avez voulu lancer en reprenant quand même ce que disait Jacques, à savoir qu'il me semble que c'est d'une certaine façon une fausse manière de poser le débat entre d'un côté est-ce que vous êtes pour la neutralisation, de l'autre côté pour la socialisation. Parce qu'il y a quand même des niveaux qui se télescopent et des niveaux qui sont fort différents. Et je pense que d'abord, le problème de fond est d'abord un problème de citoyenneté, un problème d'État, un problème d'engagement de tout un chacun dans un certain type de politique. Et j'aime, chaque fois qu'on place le débat sur cette question-là, j'aime bien citer les propos d'un ministre de la Justice de France en 1991, quand il était question de la discussion sur les peines incompressibles, parce que la question dans ce débat-là, c'est d'abord quel est le niveau de sécurité qu'un pays veut s'octroyer et quel niveau d'insécurité il peut tolérer. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut mettre la barre très très haut de façon absolue ou tolérer un certain type de pari qui restera de toute façon, quelle que soit la qualité et la compétence des spécialistes, d'une certaine manière aléatoire. Alors, je vais quand même illustrer ce propos par la déclaration qu'avait fait Pierre Méhaignerie à cette époque-là à la télévision. Il disait, et qui avait été relevé après par les journalistes de Libération, il disait « Mon objectif, c'est de protéger l'enfant sans anéantir l'individu. » Protéger l'enfant, c'est constater que dans les cas où les psychiatres estiment que les risques de récidive sont très importants, il n'existe pas d'autre solution que l'enfermement en l'état actuel des connaissances médiatiques. Médical, voulais-je dire, et psychiatrique. C'est-à-dire que le lapsus de Méhaignerie était tout à fait indicateur de la tension qui existe dans l'essai d'appréhension du problème. Ce qui veut dire, en tout cas, il y a un choix de société, et ce choix de société, en tant que spécialiste, on peut le prendre comme tout citoyen. Mais en tant que spécialiste, c'est vrai, on doit rester au niveau de ce que l'on sait faire, nous, les uns et les autres. Vous avez dit que j'aurais préféré la formule de fou dangereux, la formule d'aliéné criminel. Non, la formule que je préfère, c'est celle du détenu patient. C'est celui auprès de qui je vais essayer d'engager dans un soin. Dans un soin et dans un certain type de démarche qui passe aussi avant la resocialisation dans la réintégration. Et contrairement à ce que disait Gérard tout à l'heure, les filières qu'on essaye de, de, promouvoir dans le canton ne sont pas des filières à sens unique ou des filières qui s'emboîtent avec plus de sécurité ou moins de sécurité, mais c'est quelque chose au contraire qui doit permettre à chaque étape, à chaque niveau, des possibilités de réintégration dans le milieu pénitentiaire, c'est-à-dire de sortir de l'exclusion supplémentaire que peut représenter la stigmatisation psychiatrique dans le milieu pour réintégrer dans le droit commun de l'évolution de la peine. Et que chaque structure doit permettre ce fonctionnement-là, parce qu'effectivement, si du premier jour d'incarcération jusqu'à la fin de la mesure pénale, la personne est dans une même filière et n'a pas d'autre chance de s'en sortir, je crois que là, on est dans un leurre et dans une erreur. Je pourrais tout à fait souscrire à ton point de vue. Donc, mon travail de spécialiste, c'est de dire à quel moment je ne pourrais plus engager la personne dans un soin où effectivement je suis démuni par rapport à ce qui est de ma compétence. Et à partir de là, je dirais le travail, c'est là que le travail interdisciplinaire prend toute sa valeur, toute sa réflexion, hein, et que là il y a des domaines qui ne sont pas du mien, qui sont du domaine du juriste, qui sont du domaine de l'exécution des peines, qui doit pouvoir dire ben, effectivement là la personne peut ne pas changer. Parce qu'il y a des gens qui vont changer sans traitement. Et c'est ça aussi un autre leurre. C'est qu'on va réduire la capacité de changement à la capacité à la personne de suivre un traitement et de s'engager dans ce traitement. Alors qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pu évoluer au sein d'un parcours pénal, alors que rien ne laissait penser qu'ils pourraient évoluer. Pour terminer, je dirais que je crois que le Prison Works de Tony Blair, c'est pas une question d'insuffisance d'évaluation, c'est effectivement une tendance qui associe la nécessité de diminuer des coûts, hein, et parce que c'est vrai que le pari qu'on prend d'aller dans la resocialisation, d'aller dans un certain type de politique pénale, quelle qu'elle soit, et d'aller dans la relation, ça coûte, hein, et c'est effectivement à la fois le télescopage entre une question de coût et puis une question de sacrifier un discours sécuritaire bon marché, si je peux m'exprimer ainsi.
Est-ce que quelqu'un aimerait répondre?
Peut-être pour continuer un petit peu dans la même ligne, c'est des choses dont je n'ai pas vraiment parlé aujourd'hui très directement, mais l'utilisation de la sentence aussi, quand ça recroise un peu le thème initial là, de resocialiser ou neutraliser. Quand un détenu arrive chez nous, c'est un fait que ma première idée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Et je ne sais pas ici comment ça fonctionne au niveau des libérations conditionnelles, mais ces individus-là, qui ont une problématique double de troubles de personnalité et de santé mentale, souvent répondre à un levier légal. Donc, souvent, et parfois, bon, c'est même des schizophrènes, des troubles délirants paranoïdes, et c'est à ce moment-là très intéressant, puis le docteur Niveau en parlait tantôt, de ne jamais attendre la fin d'une sentence, parce que l'individu est tellement détérioré vers la fin de la sentence, il y a eu plusieurs cicatrices psychotiques sûrement pendant l'incarcération, donc c'est de les prendre au moment le plus fécond, et le plus tôt possible, peut-être comme chez nous, au tiers, disons par exemple, de la sentence, et d'essayer de psychiatriser des individus qui étaient toujours dans les circuits judiciaires avant. Parce que, bon, avec toute la désinstitutionnalisation, évidemment, grand nombre de sujets trouvent refuge dans les prisons et les pénitenciers. Je ne sais pas si c'est pareil ici, mais au Canada, à Montréal, bien des villes, il n'y a plus de place dans les hôpitaux, alors que font les gens sans abri? Ben, ils commettent un délit. Et là, ils se retrouvent avec la nourriture, un toit. Sauf qu'à un moment donné, l'environnement devient pathologique. Alors, on essaie à ce moment-là d'utiliser le levier légal qui est la sentence, avec des conditions de libération conditionnelle, pour tenter de les convaincre à la psychiatrie de s'inscrire dans un traitement en espérant qu'ils y demeurent après.
Une question, une remarque? Oui?
Merci. Je me posais des questions sur en référence aux paradoxes et aux identités. Je me disais, on est ici et on doit travailler à la fois pour la société, à la fois pour l'individu. Et autre chose, enfin, un paradoxe que je remarque, c'est qu'on doit aussi soigner et enfermer. Et on apprend toujours qu'on peut guérir, enfin, dans le meilleur des cas, avec le consentement, donc sans la contrainte. On est en plein paradoxe et on doit faire avec. Donc je ressors le mot consensus dont on parlait, où je me dis, évidemment, c'est vers là qu'on peut avancer tous ensemble. Un autre point que je remarquais, on parle de double diagnostic, double ou triple, qui à chaque fois pose problème du moment qu'il y en a deux. Et pour la même chose pour le détenu-patient, qui a une double identité, détenu et patient. Et à chaque fois, double enfermement, alors lequel travailler, l'un, l'autre, qui, comment, ça a encore un consensus à développer. Et ça me faisait penser à un autre paradoxe entre donner le dire aux parents qu'ils doivent assumer leur rôle. On parle souvent éduquer, apprendre les valeurs, le respect, etc. Et de l'autre côté, la société, comme disait monsieur, va peut-être le mettre dans l'école. Donc on dépossède les parents d'un rôle et on leur dit de l'autre côté, faites-le. Encore un paradoxe où je me demande comment naviguer là-dedans. Voilà mes réflexions.
Alors, il y a plein de paradoxes, je ne vais pas pouvoir répondre à tous, en plus je ne suis pas du tout compétent. Le premier, c'était travailler pour l'individu et ou travailler pour la société. Alors, personnellement, j'ai fondamentalement l'impression qu'en travaillant pour l'individu, on travaille aussi pour la société. Alors qu'en travaillant pour la société seulement, on oublie de travailler pour l'individu. Alors, il s'agit peut-être de travailler avec l'individu dans le but d'améliorer, au bout du compte, sa... et donc la société.
J'ai l'impression qu'il y a toujours ces luttes du pouvoir, de toute façon, à tous les niveaux. Et je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que quelquefois, il manque de contre-pouvoir. La société va... Enfin, c'est le principe de soit on travaille pour le groupe, soit pour l'individu, et où trouver le consensus pour qu'on ait le respect des deux, quoi. Est-ce que les détenus ou le citoyen en général ne présentent pas un contre-pouvoir suffisant à la société pour que... Enfin, là, c'est des débats qui sortent d'ici, mais j'ai l'impression de retrouver ça à tous les niveaux. Moi, je suis infirmier, comment je vais travailler avec le gardien, la double identité du détenu-patient, etc. On retrouve toujours ça, quoi. Mais je suis content d'être ici et de voir que, justement, c'est en discutant qu'on peut toujours avancer dans le même sens, dans l'intérêt du patient individu et évidemment de la société. Si on fait de la prévention... Enfin, une autre réflexion que j'avais, quand on voit qu'il y a 50% de la population carcérale aurait besoin de soins psy, psy au général, je me dis évidemment, si vous pouvez prévenir ça, ça retirerait, en simplifiant, 50% de la population carcérale. En idéalisant le futur.
Il y a juste une chose qui me dérange un petit peu quand vous dites qu'il y a une double identité de patient et de détenu. Moi, je voudrais dire une double étiquette et une seule identité.
Oui. C'est une autre réflexion que j'avais notée entre globalité et différencié. Il me semble que dans notre société cartésienne, on a appris à mettre des étiquettes, à différencier, à disséquer. Dans les soins infirmiers, on parle de globalité. Enfin, on en parle et puis on a une société culturelle qui ne va pas dans ce sens-là, donc c'est difficile.
Oui, c'est un petit peu en réponse et en accord avec Dr Niveau tantôt sur la question des délinquants sexuels. J'ai bien compris, pour vous, ça devrait être plutôt exclu. Et je suis 100% d'accord avec vous. Et j'ai été étonné même pendant les deux journées ici à quel point on parle de délinquants sexuels comme si ça faisait partie de la psychiatrie. Au Québec, ça ne fait pas partie de la psychiatrie. Certains psychiatres vont se surspécialiser, on a monté des programmes pour les délinquants sexuels, mais les délinquants sexuels sont dans les pénitenciers et peuvent venir en programme de traitement à Pinel. Mais d'aucune façon, ces gens-là ont quelconque étiquette psychiatrique dans le sens de la... même pas une minuscule déresponsabilisation. Ce sont des gens entièrement responsables. Et est-ce que j'ai compris tantôt qu'ils peuvent même avoir un article 43 qui voudrait dire comme considéré comme malade psychiatrique, sans pathologie psychiatrique de l'ordre de la psychose, par exemple? Ça peut arriver. Donc, on peut se retrouver dans un hôpital avec un article 43 d'un délinquant sexuel pur. Trouble de personnalité pur avec délinquant sexuel. Alors là-dessus, je suis tout à fait en accord avec vous. Ça appartient à un autre niveau. Que des psychiatres s'y intéressent, essaient de les aider, c'est parfait. Je ne sais pas qui s'en occupe ici à part les psychiatres, parce qu'on dirait que les psychiatres en couvrent large. Et chez nous, c'est surtout les criminologues, sexologues, dans les pénitenciers, les agents de libération et les équipes thérapeutiques de soins. C'est beaucoup de thérapie de groupe, essentiellement pour les délinquants sexuels. Et l'autre chose qui me frappe aussi, c'est la question de la toxicomanie. Nous, on a des reproches à se faire soi-même au Québec. On a beaucoup évacué la toxicomanie et laissé ça plus dans les mains de centres de désintox, très peu médicalisés. En tout cas, certainement pas psychiatrisés. Et c'est un domaine dont on s'occupe peu. Et à nouveau, comme dans les pénitenciers, dans les centres de désintox, ce sont des intervenants, psychologues, sociologues, qui s'occupe de des problèmes de toxicomanie. Donc ça aussi, c'est exclu du champ de la psychiatrie. Et j'ai fait un stage à Montpellier et j'étais très surpris de voir arriver des gens complètement paf, foutre le bordel à l'hôpital. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait ici? Ça, c'est du registre, il doit aller dans un centre en médecine ou et sûrement pas dans un asile psychiatrique. Et ça aussi, c'est un autre aspect, et ça explique peut-être pourquoi on parle de 50% de patients psychiques en prison, parce que là, on vise large. Si on prend délinquance sexuelle et toxicomanie, je serais curieux de voir patients psychiques avec problématiques psychiatriques pures, dans le sens troubles affectifs sévères, psychose, schizophrénie, on tombera à combien?
Oui, non, il faut comprendre que pour Genève, les expertises psychiatriques sont en majorité pas faites par des forensic psychiatrists, mais par des psychiatres cliniciens habituels. Et donc, ces gens qui n'ont pas l'habitude de voir des délinquants sexuels, au moment de faire l'expertise, ils prennent leur... actuellement, c'est la CIM-10, peut-être au Canada, c'est le DSM-4, je ne sais pas. Enfin, ils prennent leur manuel et dans les paraphilies, ils voient pédophilie. Donc, c'est écrit dans le manuel des troubles mentaux. Et donc, comme disait M. Lamotte, entre le moment où on fait la clinique et le moment où on dit si la personne est responsable complètement ou responsabilité restreinte, il y a un moment de idéologique, dit M. Lamotte, et en tout cas très subjectif, qui fait que quand on a un petit peu d'expérience, effectivement, quand on a réfléchi, on se dit, mais ça peut être sur le manuel, c'est pas une maladie mentale, c'est peut-être sans doute un choix, une orientation sexuelle très particulière et très regrettable, mais c'est pas une maladie mentale. Oui, Mais c'est vrai que le trouble de la personnalité peut amener, dans certaines circonstances, à une responsabilité restreinte. On admet ça, mais pas une irresponsabilité. Mais le fait d'avoir une responsabilité restreinte ouvre quand même la possibilité d'avoir un article 43. Si bien que les gens qui font les expertises ne sont pas les mêmes que ceux qui soignent après, enfin qui ont à soigner. Et voilà, ça explique. Et c'est un peu aussi pour ça que je hors de moi l'idée de critiquer ce que essaye difficilement de mettre en place M. Gravier et M. Valoton, c'est pas du tout ça. Mais ce que je pense, c'est que justement cette filière peut justement s'adresser à des personnes qui ont ces problèmes de troubles de personnalité, peut-être de paraphilie, etc., ou de pathologies très complexes. Mais mon idée était que, effectivement, si on parle des malades psychiques, disons, ou des malades mentaux ayant commis un acte de délinquance à un moment donné, je me disais que peut-être que c'est un peu trop pour ces patients-là, que la filière, la remise dans la filière médicalisée habituelle était peut-être suffisante. Mais je suis tout à fait conscient qu'il y a toute une frange de malades pour lesquels il faut sans doute une filière spécialisée. Et je suis tout à fait conscient que je n'avais pas du tout compris que les gens suivaient la filière comme la vis suit la filière de l'écrou et qu'on peut aller en avant, en arrière, etc. Sans doute aussi sortir de la filière pour retourner dans un circuit, disons, civil ou normal, c'est clair.
Ouais, je crois, juste pour compléter, je crois que ce qu'on cherche à créer, c'est tout simplement, on cherche à compléter l'équipement à l'endroit où on n'a pas d'équipement dans le cadre du canton. Mais le but, ça n'est pas de créer une filière particulière, c'est tout simplement de boucher des trous. Et puis après, d'utiliser ça pour les patients ou pour les personnes qui correspondent à ces indications-là. Mais pas du tout de faire une filière particulière qui va du pénitencier jusqu'à la sortie d'un moutalon.
Voilà, nous arrivons. Il y a encore des questions ? Est-ce qu'on arrive à la fin de l'une dernière ? D'accord.
Merci. C'est bien que M. Valoton a pris la parole parce que c'est une question qui lui est destinée. En fait, vous insistez encore sur compléter l'équipement. Et dans votre discours, j'ai été un tout petit peu étonné parce que on voit bien cette intention de modifications structurelles, d'organisation. Et en fait, ça rentre un tout petit peu en contradiction avec les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui, qui parlent plus de problèmes d'ordre interpersonnel, relationnel, de manque de respect, de responsabilité. Et même à un certain moment, vous disiez, vous évoquiez le problème des clans, et vous disiez, on peut les résoudre d'un point de vue structurel. Donc, on attaque le problème d'un point de vue structurel et non pas interpersonnel. Alors, je suis convaincu qu'il y a quand même une dynamique à ce niveau-là, mais ça m'a fait un tout petit peu peur.
Non, je crois qu'il y a des études qui ont été faites sur les types de fonctionnement des établissements pénitentiaires et ça a commencé par Goffman, par exemple, avec toutes les études sur les institutions totalitaires et leurs effets. Et on sait très bien quels sont les résultats pratiques. On fait soit des gens suradaptés, soit des révoltés, soit des gens qui s'adaptent en surface, mais qui n'en pensent pas moins, qui s'organisent pas moins de leur côté. Ça, c'est une des caractéristiques premières de ce style de structure. Si vous ouvrez des structures comme ça, dans une certaine mesure, mais quand elles sont grandes, vous donnez encore plus de place au pervers, vous donnez encore plus de place au milieu, vous donnez encore plus de place à sa culture, et vous la maîtrisez plus. Et si je prends le pénitentiaire tel qu'il est maintenant, il fonctionne comme ça. Et on a parlé de clans tout à l'heure, on a parlé c'est la résultante tout simplement du passage d'un système qui était un système coercitif extrêmement dur, dans lequel les relations entre les individus étaient parfaitement maîtrisées et elles étaient impossibles au-delà d'un certain niveau, à une structure qui s'est ouverte, mais sans se donner des moyens de contre-pouvoir et sans se donner les moyens de contrôle. Et la prison actuelle, que le MIR, par exemple, appelle une prison mixte, elle a des ouvertures, elle a plus d'ouvertures qu'avant, certes, mais une bonne partie de ces ouvertures ont été récupérées par les détenus pour y faire autre chose que des processus éducatifs ou des processus, disons, les processus qu'on voudrait y installer. Et actuellement, les constats, c'est qu'il faudrait passer à un système autre qui est beaucoup plus consensuel, beaucoup plus participatif pour arriver à changer ça. Mais vous ne pouvez pas le faire dans les structures, dans des grands groupes. Dans un grand établissement, vous aurez des risques absolument énormes à mettre en place des éléments de société parce que vous allez encore plus perdre le contrôle. Et c'est pour ça que je parlais d'autres structures et d'autres constructions, parce qu'en limitant les groupes, en faisant des structures qui sont des structures entre 8, 10, 12, 15 personnes par unité, que vous autonomisez beaucoup plus, que vous responsabilisez beaucoup plus, auxquelles vous donnez des possibilités dans un cadre, qui est un cadre bien précis et bien fixé, d'évoluer, de travailler, de s'autogérer dans une large mesure, vous entrez dans un système qui est tout à fait différent. Mais les témoignages qu'on a entendus, alors moi, on les connaît. C'est tout simplement, c'est la réalité pénitentiaire classique. Vous la retrouvez aux EPO, vous la retrouvez dans n'importe quel autre établissement pénitentiaire, disons, organisé tel qu'ils le sont maintenant. Vous aurez toujours ce mode de fonctionnement.
Voilà, on arrive. Une toute petite, alors.
La chose que je voudrais dire, c'est que toute la réflexion qu'on peut mener sur ces structures, sur le développement des soins, n'a de sens, en tout cas dans le milieu pénitentiaire, que si elles vont de pair avec une réflexion aussi sur la prison elle-même et sur la façon dont elle peut accueillir le détenu. Je crois que si on développe une structure de soins ou des modalités de soins sans interagir avec le reste de la prison, ça n'a aucun sens, ou ça finit par créer des isolats ou des ghettos à l'intérieur de la prison. Et alors là, tous les risques que l'on peut craindre de filières spécialisées, de filières cul-de-sac ou ghetto, ou de se retrouver dans des situations comme celle que décrivait Antoine quand on en discutait au Canada, où effectivement le milieu reste profondément réfractaire à tout ce qui peut évoluer du côté du respect de la dignité, du côté de la progression individuelle, toutes ces craintes deviennent alors fondées.
Voilà, je crois que cette fois, nous arrivons à la fin. Et je vous remercie tous. Je suis très, très contente pour mon compte de ces deux journées de travail qui ont été de haut niveau, tant au niveau des intervenants qui ont présenté des conférences honnêtes, sincères, engagées pour la défense des intérêts des personnes qui souffrent de troubles psychiques et qui ont commis des délits. Je suis très heureuse d'avoir pu remettre ce thème sur le tapis et je vous souhaite une bonne rentrée. Mais avant, arrêtez-vous à la cafétéria, il y a un apéritif de clôture qui nous attend. Merci à vous tous.